VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel au Libéria. La mission des Nations Unies cède officiellement ce jeudi ses responsabilités aux forces libériennes. Cette passation suscite cependant des craintes quant aux capacités de l'État à payer et à équiper les policiers et militaires libériens sans avoir les mêmes moyens et équipements que l'ONU. Le Libéria devra désormais donc sécuriser ses aéroports, les transferts de fonds, ses prisons, les personnalités, mais aussi inspecter les armes du circuit officiel, faire les patrouilles maritime et neutraliser des explosifs en cas de besoin, autant de tâches relevant auparavant de la MINUL. Autre défi majeur, éviter une politisation de ses forces, alors que le pays doit organiser une présidentielle en 2017. Au Mali, la réforme de l'État était au centre d'une rencontre de réflexion organisée par la Fondation Friedrich Ebert. Les débats ont porté sur les réformes administratives, économiques et sociales. Les découpages territoriaux et la gestion de la crise que connaît le pays ont été également abordés. À Bamako, je vous propose de retrouver notre correspondant Kassim Traoré.
Parmi les réformes qui dorment dans les tiroirs, il y a la loi portant création de 14 nouvelles régions au Mali. Jusqu'à présent, il n'y a que deux régions qui ont été créées, Kabadjakité, notable de Bougouni.
Les régions vont être mises en place de façon progressive pendant 5 ans, notamment déjà la 5e année. À part les régions de Taoudéni, Tombouctou, Gao, Kidal et Menaka, les 14 autres régions n'ont pas été découpées. Donc c'est pour rappeler aux autorités qu'il est vraiment temps d'opérationnaliser les 14 autres régions.
Pour le président du SADI, il y a de l'urgence. C'est pourquoi il souhaite la mise en place des autorités intérimaires afin de faciliter le retour de l'État dans les localités où il n'existe pas. Oumar Mariko.
Dans les environs de Tenangou, le pouvoir n'est pas là-bas. Aucun symbole de l'État n'est là-bas. Vous prenez Douanzan. Sur les 15 communes de Douanzan, le symbole de l'État n'existe pas pratiquement dans 8 à 9 communes de Douanzan. En tout cas, une chose est claire. Pour ce qui concerne Kidal, qui est en tout cas un point focal extrêmement important, il est nécessaire qu'aujourd'hui et très rapidement, qu'on met sur place des autorités intérimaires. La nature a horreur du vide.
En tout cas, 70% des Maliens souhaitent une réforme de l'État, selon un sondage réalisé en 2015 par Mali Maître. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, le ministre de la Santé, Félix Kabange, a annoncé qu'une campagne de vaccination de 11,6 millions de personnes contre la fièvre jaune va commencer le 20 juillet. Elle va se dérouler dans la capitale Kinshasa, ainsi que dans les provinces de Kwango, Lualaba et du Kasaï. Toujours en RDC, les évêques catholiques appellent à la responsabilité des acteurs politiques pour la sauvegarde de la nation. C'est le message de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à l'issue de la 53e Assemblée plénière qui s'est tenue à Kinshasa. Les responsables de l'Église catholique ont recommandé au gouvernement de redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources financières afin de garantir la tenue des élections dans les délais constitutionnels. On écoute l'abbé Léonard Santédi, le secrétaire général de la CENCO, au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
En tant que pasteur, ils apportent leur contribution. D'abord pour dire, il faudrait le respect de la Constitution qui est le socle et qui nous permet de respecter l'alternance au pouvoir. Mais en plus de cela, ils en appellent à tous les acteurs politiques pour qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils se parlent en face pour dégager un consensus en vue des élections crédibles et apaisées dans notre pays. Ils ont parlé aussi de la crise sociale, la situation de souffrance de la population qui ne fait qu'empirer, les besoins sociaux de base, l'éducation, la santé, l'eau qui sont très péniblement assurés et ils en appellent alors aux gouvernants à écouter les cris du peuple.
Le père Léonard Santédi de l'Église catholique congolaise. Au Congo-Brazzaville, les associations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. Depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars, deux opposants sont en prison pendant que le révérend pasteur Tata Ntoumi, objet d'un mandat d'arrêt, est retourné dans la clandestinité. Hier, le ministère public a requis 5 ans de prison ferme pour Paulin Makaya. Trésor Chardon Nzila Kende, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, interpelle la communauté internationale.
La dégradation de la situation politique en République du Congo doit pousser la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la fonction et les Nations unies à agir face à la répression qui s'intensifie contre les opposants. C'est vraiment inadmissible qu'un État membre de l'Organisation des Nations unies qui permet de bafouer les droits des libertés fondamentales. Je pense que la communauté internationale doit agir. Il est hors de question d'avoir les yeux fermés de la répression qui s'intensifie sur les opposants.
Trésor Chardon Zila Kende, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. En Centrafrique, et selon Human Rights Watch, au moins 18 personnes ont été exécutées froidement par une unité de police anti-criminalité. Entre avril 2015 et mars 2016, l'ONG accuse nommément Robert Yekoua Kété. Il était le directeur de l'Office central de répression du banditisme au moment des faits. Il aurait personnellement mené une exécution ordonnée 5 autres.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Égypte, le président de la prestigieuse autorité de contrôle des comptes publics a été démis de ses fonctions. Inculpé, il comparaît aujourd'hui devant un tribunal. Son tort, selon lui, avoir chiffré l'étendue de la corruption au cœur de l'État. L'ancien juge de 62 ans, retraité de la magistrature, a été démis fin mars de ses fonctions à la tête de l'autorité par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sissi. Une intense campagne est menée depuis par les médias égyptiens qui soutiennent dans leur quasi-totalité le gouvernement, accusant la famille de M. Genena d'appartenir à l'opposition islamiste et de vouloir discréditer le pouvoir. Les travaux pour rendre lisible la mémoire de la seconde boîte noire contenant les conversations du vol Égypte-Air qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai débutent aujourd'hui, d'après un porte-parole du bureau d'enquête sur les accidents en France. Une fois que les cartes auront été rendues lisibles, elles repartiront au Caire en Égypte où leurs données seront analysées. Ici aux États-Unis, la Cour suprême a réaffirmé avec force le droit des femmes à l'avortement, une question passionnelle qui déchire le pays en cette année électorale. Claire Morin-Gibourg.
5 juges ont voté pour et 3 contre. C'est une grande victoire pour des millions de femmes. C'est aussi un revers pour les pro-life qui avaient obtenu l'imposition de multiples restrictions à l'avortement dans de nombreux États conservateurs. La haute instance judiciaire a jugé illégale une loi de 2013 au Texas qui impose aux cliniques pratiquant des avortements de posséder un plateau chirurgical dernier cri et les médecins d'avoir un droit d'admission de leurs patientes dans un hôpital local. Ces règles draconiennes ont contraint à la fermeture des dizaines de centres pour avortement au Texas. Pour les défenseurs du droit à l'interruption volontaire de grossesse, ce sont les mêmes assauts répétés contre la décision historique de la Cour suprême de 1973 légalisant l'avortement. Fin novembre, un adversaire de la mesure a abattu 3 personnes dans un centre de planning familial du Colorado. Ce débat passionnel, loin de se calmer, risque de revenir durant la campagne opposant Hillary Clinton à Donald Trump.
Près de 48 000 étrangers en situation irrégulière ont été placés en rétention en France en 2015, selon des associations qui déplorent aujourd'hui des pratiques démesurées, notamment lorsqu'elles ont servi à désengorger le bidonville de Calais dans le nord de la France où ont afflué les migrants. Ces associations critiquent particulièrement l'opération d'une ampleur sans précédent menée au dernier trimestre 2015 depuis Calais où plus de 1100 personnes ont été interpellées puis disséminées dans des centres de rétention alors même qu'elles étaient là pour la plupart inexpulsables. Le ballet diplomatique continue à un rythme soutenu à propos du Brexit. Pour la première fois depuis le vote des Britanniques en faveur de la sortie de l'Union européenne, le Premier ministre David Cameron va rencontrer aujourd'hui des dirigeants européens à Bruxelles. Ces derniers vont presser le Royaume-Uni d'enclencher son départ sans perdre de temps et ne pas paralyser le bloc dont l'avenir est en jeu. Demain, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vont se réunir pour la première fois à 27 sans le Premier ministre britannique, donc qui doit cependant participer ce soir au dîner. Le président iranien Hassan Rouhani a souhaité aujourd'hui que le procès des assaillants présumés de l'ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran permette de renforcer la confiance du monde à l'égard de l'Iran. 48 personnes accusées d'avoir attaqué et partiellement incendié l'ambassade saoudienne à Téhéran en janvier seront jugées à partir du 18 juillet. Et puis enfin, le réchauffement entre la Turquie et la Russie. La Turquie s'est dite prête, si nécessaire, à verser des compensations à la Russie pour l'avion russe abattu par la chasse turque en novembre 2015 lors d'une mission en Syrie, a affirmé hier le premier ministre turc Binali Yildirim. Jusqu'à présent, Ankara avait exclu des excuses et des compensations à Moscou. M. Yildirim a en outre indiqué que le chef de l'État turc devrait s'entretenir au téléphone mercredi ou jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine sur les moyens de mettre sur les rails les relations entre les deux pays qui défendent toutefois des intérêts opposés en Syrie. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est Henri Francis dans 50 minutes exactement. Pour ma part, je vous dis bon après-midi en compagnie de votre radio préférée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.